France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki.
Il faut absolument que t'écoutes ça, alors c'est conceptuel hein.
Ouais.
C'est du funk rap, c'est un peu smooth, pas trop dark, je pense que ça va beaucoup te plaire.
Ok.
T'es prête? Tu m'as traité de poucave mec, t'avais mes fûts, t'étais foncedé. Ouais. Tu voulais me sécher mec, tu lâchais rien, t'étais focus. Je suis désolé pour toi, mec. J'ai pas relevé, rien calculé. Pour que j'aie le seum, mec, encore eût-il fallu que je le fusse.
Quoi? Attends, tu suces qui?
Non. J'ai pas dit que je le suce, j'ai dit que je le fusse.
Fusse?
Autrement dit, une poucave, que je fusse une poucave.
Mais ça se dit encore ça, que je le fusse?
Bah, c'est l'imparfait du subjonctif du verbe être. Pardon de rapper en bon français.
Ah, non, mais d'accord, mais Léo, si tu veux réussir dans le rap, je t'en supplie, fais des fautes de français.
Tu crois?
Bah oui, tu vas souffrir sinon.
Voilà, qui prête effectivement à confusion extrait de scène de ménage. Bonjour Rachid Santaki.
Bonjour Olivia.
Voilà, pas d'imparfait du subjonctif, si, dans cette dictée aujourd'hui?
Non.
Non? À quel temps serons-nous? Nous verrons dans quelques instants. Et bonjour à notre invité. Il ne se déplace jamais ou presque sans un petit carnet dans lequel il réalise des petits croquis du quotidien, griffonne quelques mots par-ci, par-là. Aujourd'hui, c'est sur une feuille A4 avec marqué grande dictée, non? Pas de feuille A4 aujourd'hui. Bon, bah, ce sera sur votre carnet que vous allez pouvoir exprimer toute votre créativité dans tous les cas. Et Dieu sait que la langue française en exige parfois de l'inventivité. Bonjour Mathieu Sapin.
Bonjour Olivier.
Vous êtes dessinateur. Bonjour, vous venez de publier chez Dupuis avec le camarade Johan Svar l'album Le Ministère Secret, tome 1, Héros de la République. Voilà pour les présentations. Rachid Santaki, c'est le monsieur qui tous les samedis sur France Culture, entre autres, fait des dictées extrêmement difficiles, dictées sur lesquelles les invités se cassent les dents en général, mais aujourd'hui ça va peut-être bien se passer. Vous, l'as du BD reportage, Mathieu Sapin, comme on a pu le voir dans l'album Campagne présidentielle ou encore dans Comédie française, est-ce que vous agissez parfois en gentleman cambrioleur pendant vos reportages?
Principalement. Moi, je vole des mots, je vole des idées. Et je vole des situations, des images, et après je les utilise pour raconter des histoires.
Ouais. Ouais, mais contrairement à un certain Dupin, vous laissez des traces, c'est ça, hein, du coup. Beaucoup de traces, on se méfie de vous, tout particulièrement. Quel sera donc l'extrait que vous avez choisi, Rachid Santaki, pour
cette
dictée?
Alors j'ai choisi un extrait d'Arsène Lupin, L'aiguille creuse. Et donc ça va être un moyen de vous confronter à un texte, un personnage, et de voir si vous voulez ou pas votre niveau en orthographe.
Parfait.
Lupin qui cartonne en ce moment sur nos petits écrans à travers cette adaptation qui en a été faite avec Omar Sy, c'est sur Netflix. Lupin qui est d'abord un héros de roman de Maurice Leblanc qui lui a donné vie à travers ses livres. Et on va donc aujourd'hui travailler à partir de cet extrait de L'aiguille creuse, un livre de 1909. Je vous rappelle les règles pour ceux qui nous écoutent et qui vont réaliser, faire cette dictée pour la première fois, comme vous, Mathieu Sapin. Une première lecture pour vous mettre le texte dans l'oreille, par Rachid Santaki. Une seconde où il va falloir noter avec un papier, un crayon ou un stylo. Et une troisième lecture, correction, qu'on va réaliser ensemble pour tenter de soulever les points de difficulté, voir où est-ce que vous avez pu éventuellement buter. Et puis on se notera, si on le souhaite à la fin, c'est pas obligé. Parce que c'est un jeu, Rachid.
Exactement, la dictée n'est pas
semaine
notée.
Après semaine.
Rassurez-vous, soit Mathieu, la pression monte.
Et on va commencer tout de suite pour une première lecture, Rachid.
Très bien, donc c'est un extrait d'Arsène Lupin, L'aiguille creuse. Le champ des investigations, selon le mot du substitut, se limitait à l'espace compris entre le château, la pelouse de droite et l'angle formé par le mur et par le mur opposé au château. Fin de la dictée pour les écoliers. C'est-à-dire un quadrilatère d'environ 100 mètres de côté, où surgissaient ça et là les ruines d'Ambrumésie, le monastère si célèbre au Moyen-Âge. Tout de suite, dans l'herbe foulée, on nota le passage du fugitif. À deux endroits, des traces de sang noirci presque desséchées furent observées. Après le tournant de l'arcade, qui marquait l'extrémité du cloître, il n'y avait plus rien. La nature du sol, tapissée d'aiguilles de pin, ne se prêtant plus à l'empreinte du corps. Mais alors, comment le blessé aurait-il pu échapper au regard de la jeune fille? Point de suspension et fin de cette dictée. Voilà pour la première lecture. Alors Mathieu?
Allez.
Ça va?
Ça va.
Très bien.
Je tente. J'ai pas le choix, de toute façon.
Non, vous avez pas le choix. Vous pouvez appeler personne. Vous aimiez les dictées?
Oui, oui, j'aimais bien les dictées. Mais aujourd'hui, dans mes BD, j'ai la chance d'avoir des correcteurs, donc c'est plus facile.
Très bonne dictée à toutes et à tous. Le champ des investigations. Le champ des investigations. Donc à mettre entre guillemets. Le champ des investigations, entre guillemets, virgule, selon le mot du substitut, virgule, je répète, le champ des investigations, entre guillemets, virgule, selon le mot du substitut, virgule, se limitait à l'espace compris. Je répète, selon le mot du substitut, virgule, se limitait à l'espace compris entre le château, virgule, à l'espace compris entre le château, virgule, la pelouse de droite, virgule, compris entre le château, virgule, la pelouse de droite, virgule, et l'angle formé par le mur de gauche. Je répète, la pelouse de droite, virgule, et l'angle formé par le mur de gauche. Et par le mur opposé. Et par le mur opposé. Au château, point virgule. Donc je répète, et l'angle formé par le mur de gauche et par le mur opposé au château, point virgule. Fin de la dictée pour les écoliers. C'est-à-dire un quadrilatère, c'est-à-dire un quadrilatère.
On entend voler les mouches, hein, c'est dans
oui,
le calme.
Mathieu est très concentré.
Oui.
C'est-à-dire un quadrilatère.
Il a la gorge un peu sèche. Vous voulez boire un petit peu?
Ouais. C'est... C'est-à-dire un quadrilatère d'environ 100 mètres de côté, virgule. D'environ 100 mètres de côté, virgule. Où surgissait ça et là. Où surgissait ça et là. Les ruines... d'embrumésie, virgule. Donc je vais épeler embrumésie, où surgissaient ça et là les ruines d'embrumésie, virgule. Donc embrumésie, évidemment, A majuscule, M-B-R-U-M, E accent aigu, S-Y. Embrumésie, virgule. Le monastère si célèbre au Moyen-Âge, point. Où surgissait ça et là les ruines d'embrumésie, virgule, le monastère si célèbre au Moyen-Âge, point. Tout de suite, virgule, dans l'herbe foulée, virgule, tout de suite, virgule, dans l'herbe foulée, virgule, on nota le passage du fugitif, point. Tout de suite, virgule, dans l'herbe foulée, virgule, on nota le passage du fugitif, point. À deux endroits, virgule, à deux endroits, virgule, des traces de sang noirci, virgule, à deux endroits, virgule, des traces de sang noirci, virgule, presque desséché, virgule, presque desséché, virgule, furent observées, point. À deux endroits, virgule, des traces de sang noirci, virgule, presque desséché, virgule, furent observés, point. Après le tournant de l'arcade, virgule, après le tournant de l'arcade, virgule, qui marquait, je répète, après le tournant de l'arcade, virgule, qui marquait l'extrémité du cloître, virgule, après le tournant de l'arcade, virgule, qui marquait l'extrémité du cloître, virgule, il n'y avait plus rien, virgule. Il n'y avait plus rien, virgule. La nature du sol, virgule. La nature du sol, virgule. Tapissé d'aiguilles de pin, virgule. Tapissé d'aiguilles de pin, virgule. Ne se prétend plus à l'empreinte d'un corps, point. Je répète, il n'y avait plus rien, virgule, la nature du sol, virgule, tapissé d'aiguilles de pin, virgule, ne se prétend plus à l'empreinte d'un corps, point. Mais alors, virgule, comment le blesser, mais alors, virgule, comment le blesser aurait-il pu échapper, mais alors, virgule, comment le blesser aurait-il pu échapper au regard, aurait-il pu échapper au regard de la jeune fille, point de suspension. Je répète cette dernière phrase. Mais alors, virgule, comment le blessé aurait-il pu échapper au regard de la jeune fille ? Point de suspension. Voilà pour cette seconde lecture. Ça a été, Mathieu ?
Bah ouais, je crois. J'ai galéré sur deux, trois trucs, mais on va voir.
Très bien. Alors, je vais effectuer rapidement la troisième lecture et ensuite, nous passerons à la correction avec Olivia. Le champ des investigations, entre guillemets, virgule, selon le mot du substitut, virgule, se limitait à l'espace compris entre le château, virgule, la pelouse de droite, virgule, et l'angle formé par le mur de gauche et par le mur opposé au château. Point virgule. Fin de la dictée pour les écoliers. C'est-à-dire un quadrilatère d'environ 100 mètres de côté, virgule, où surgissaient, ça et là, les ruines d'Ambrumésie, virgule, le monastère si célèbre au Moyen-Âge. Point. Tout de suite, virgule, dans l'herbe foulée, virgule, on nota le passage du fugitif. Point. À deux endroits, virgule, des traces de sang noirci, virgule, presque desséché, virgule, furent observées, point. Après le tournant de l'arcade, virgule, qui marquait l'extrémité du cloître, virgule, il n'y avait plus rien, virgule. La nature du sol, virgule, tapissé d'aiguilles de pin, virgule, ne se prêtant plus à l'empreinte d'un corps, point. Mais alors, virgule, comment le blessé aurait-il pu échapper au regard de la jeune fille, point de suspension, et fin de cette dictée.
Merci beaucoup. Niveau de difficulté, vous dites quelques, Mathieu Sapin, quelques points de réflexion. Moi, j'aurais buté sur le ça et là. Et vous ?
Oui, il y a le ça et là. Moi, c'est là où j'ai du mal, c'est sur tous les accords.
Exactement.
Parce qu'il y a beaucoup d'accords un peu traîtres.
Oui.
Et puis aussi certains accents.
Alors, on y va. On commence par le commencement avec ce champ d'investigation. Vous nous arrêtez quand vous vous posez une question, hein, Mathieu Sapin. Le champ des investigations, champ sans S, C-H-A-M-P, des investigations avec un S, I-N-V-E-S-T-I-G-A-T-I-O-N-S. Voilà, selon le mot du substitut. Un substitut, vous l'écrivez comment, Mathieu Sapin ?
S-U-B-S-T-I-T-U-T.
Exactement. Le substitut se limitait, alors là on est à l'imparfait, grosso modo tout au long de cette dictée. Là c'est le champ qui se limitait à IT, au singulier, à l'espace compris entre le château. Est-ce qu'il y a une difficulté ici ? Pas vraiment.
Non, il y a un accent circonflexe sur le A de château.
Oui.
Il y a un accent circonflexe sur le A de château, exactement. E-A-U au singulier, la pelouse de droite et l'angle formé et, c'est peut-être le premier oui. qui s'accorde avec l'angle.
Oui, oui.
Donc et, accent aigu tout simplement. Voilà, par le mur de gauche et par le mur opposé au château. Opposé comme et, accent aigu. château, on n'oublie pas de remettre le chapeau sur le A.
Non, j'ai tout bon pour la Ligue des écoliers.
Là-bas. C'est-à-dire, est-ce que vous mettez des traits d'union ?
Alors j'ai mis des traits d'union.
Eh bien, c'est juste.
Effectivement.
C'est toujours avec des traits d'union.
Exactement.
C'est-à-dire, un quadrilatère. Combien ça a de côtés, Mathieu Sapin ?
4, il me semble.
Voilà, donc on est dans cette, on retrouve les racines latines du mot, avec later qui viendrait de latus, lateris au pluriel, et donc qui signifie côté, quatre côtés, Q-U-A-D-R-I-L-A-T, accent grave, R-E, d'environ 100 mètres. Est-ce que vous mettez un S à 100 ?
Non.
C'est juste.
Donc du coup, la règle que vous aviez rappelée récemment, Olivia, la règle d'invariabilité vaut pour tous les numéros cardinaux. Ainsi, 100 et 20 prennent la marque du pluriel lorsqu'ils ne sont pas suivis d'un autre adjectif numéral.
Et quand ils sont précédés d'un autre chiffre comme 80 ou 400, là ce n'est pas le cas avec notre 100, nos 100 mètres. En revanche, on n'oublie pas le S à mètre, M-E accent grave T-R-E-S, d'environ 100 mètres de côté, accent circonflexe sur le haut de côté. Ouais. Où surgissaient ça et là les ruines d'Embrumésie. Alors, où, c'est le où indicatif de lieu. On n'oublie pas l'accent grave, là encore, pardon, sur le U. Surgissaient deux S, hein, au milieu. S-U-R-G-I, deux S. Et là, vous avez écrit comment à la fin?
Ah, je me suis planté. J'ai mis au singulier surgissaient.
Exactement, c'était son
la troisième
petit
personne
accord.
Du singulier. Ouais. Au lieu de la troisième personne du pluriel, ça s'accorde avec les ruines.
Exactement.
Qui est-ce qui surgissait les ruines ? Ça et là, alors, vous en avez fait quoi ?
J'ai eu rien, j'ai mis ça, et j'ai mis et plus loin et plus loin là.
Et là, vous l'avez écrit comment ? L'ensemble.
Ah, et c'est, bah, c'est dit A, plus loin ET, et plus loin L, A, avec accent grave.
Et donc pas de trait d'union entre les deux ?
Non, mais je pense
c'est
que...
Juste. Ah bon. Non, c'est juste.
J'ai hésité.
Et un accent grave, en revanche, sur le A de ça aussi.
Ah.
L'adverbe de lieu, ça, se distingue du pronom démonstratif, ça, grâce à cet accent grave qui nous permet donc de les distinguer. Voilà pour ce ça et là. Là, c'est aussi une indication de lieu, donc c'est pas le là déterminant, mais le là avec un accent grave. Les ruines, pas de difficulté, au pluriel, d'Embrumésie, vous l'avez donc épelé. Le monastère, M-O-N-A-S-T, et accent grave R-E, oui. Et non pas A-I-R-E, juste pour préciser, pour ceux qui en douteraient. Si célèbre au Moyen-Âge, comment vous écrivez Moyen-Âge ?
Ah, moi j'ai déjà célèbre, déjà je vais...
Alors célèbre, allez-y.
Alors célèbre, C-E, donc accent aigu, L-E, accent grave.
Exactement.
B-R-E. Et Moyen-Âge, bah, moi je mets un tiret, ouais. Donc moyen, M-O-Y-E-N, tiret, âge, A, accent circonflexe, G-E.
Et alors, vous mettez des majuscules aussi ou pas ?
Alors, j'ai hésité et j'en ai pas mis.
Alors, pour Moyen-Âge, vous avez presque tout juste ou presque tout faux. En tout cas, c'est une règle un peu plus compliquée aussi. Et pour ce faire, ne sachant pas moi-même, j'ai passé un coup de fil à notre maître Capello à nous. Pour ça, il faut être un peu vieux comme nous, en revanche, pour connaître l'ex-star à l'époque des jeux de 20 heures. Aujourd'hui, c'est Xavier Mauduit, le producteur du cours de l'histoire, qui est l'auteur d'une histoire de la dictée et de notre grammaire et sexy. Et je lui ai demandé comment on écrivait, il est historien, hein, comment on écrivait Moyen-Âge. Et voilà ce qu'il dit. Aujourd'hui, nous écrivons Moyen-Âge, majuscule, attention aux deux, à moyenne et à âge, et sans trait d'union.
Ah ouais.
C'est ce que recommande l'Académie française et le trésor de la langue française. Le Robert, lui, laisse le choix pour le trait d'union. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant 1878, l'Académie recommandait Moyen-Âge avec des minuscules et un trait d'union. Puis Moyen-Âge avec des minuscules et sans trait d'union dans son dictionnaire de 1935. Pourquoi on a abandonné le trait d'union ? Probablement pour des raisons d'usage et de convention. Ce qui est intéressant, c'est que les majuscules, elles se sont rétablies, elles se sont imposées à un moment pour être en accord avec les autres périodes, l'Antiquité, mais une majuscule, la Renaissance, la Révolution, l'Empire. On a accordé ce pauvre Moyen-Âge avec les autres temps forts, les autres périodes de l'histoire. Et alors, ce texte, on le disait, de Maurice Leblanc, il date de 1909, donc avant le dictionnaire de 1935. Voilà pourquoi Maurice Leblanc, lui, a écrit ici Moyen-Âge sans trait d'union et sans majuscule. Il avait donc tout juste en 1909.
À l'époque.
Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Et donc, on met des majuscules. Et toujours pas de trait d'union, par contre. Mais c'est intéressant, les évolutions de ce mot, parce que ça montre aussi comment le français évolue au fil du temps. Et on en a un bon exemple avec Moyen-Âge. On poursuit tout de suite dans l'herbe foulée. Alors, foulée, vous l'accordez avec quoi ?
Avec l'herbe, donc « et e ».
Exactement. On nota le passage du fugitif. Pas de difficulté ?
Non, F-U-G-I-T-F. T-I-F,
pardon. T-I-F. À deux endroits, on n'oublie pas le S à endroit, puisqu'il y en a deux, ouais. Des traces de sang noirci, presque desséché, furent observées. Alors, les traces avec C ou deux S ?
C, bien sûr.
Bien sûr, donc avec un S à la fin par contre.
Oui, T-R-A-C-E-S.
De sang noirci, N-O-I-R-C-I, et quelque E-S. Chose après ? Vous avez mis ES, ouais. Parce que vous l'avez accordé avec quoi ?
Avec les traces.
D'accord. Alors parce là, que... le, pour l'auteur, c'est le sang qui est noirci.
C'est les petites subtilités que j'aimais beaucoup dans ce passage.
Donc, I.
Exactement.
Et presque desséché. Et qu'est-ce qui est desséché ? La trace ou le sang ?
C'est les traces pour moi qui sont des...
Pour Maurice Leblanc, c'est toujours le sang.
Ouais.
Donc, D-E, deux S, E, enfin E accent aigu, C-H-E accent aigu. Rien derrière, on n'accorde pas.
Ah oui, desséché, j'ai fait une autre faute, j'ai pas mis l'accent sur le deuxième E.
Furent observés, et là, ce sont les traces qui sont observées. Et si là, vous n'avez c'est pas accordé, oui. Vous avez accordé avec le sang, vous aurez eu tout faux.
Je les ai accordés.
Très bien. O-B-S-E-R-V-E-E-S. Après le tournant de l'arcade qui marquait l'extrémité du cloître. Extrémité ?
Moi, je pense que j'ai... Pas... Là, j'avais un doute. Je ne savais pas l'écrire. J'ai mis E-X-T-R-E accent aigu. M-I-T-E accent aigu.
Très bien.
C'est ça. Ah. Vous avez hésité avec l'accent, si ouais. On flexe comme dans l'adjectif extrême. Donc là, on est passé à extrémité du cloître. Et là, il y a un accent circonflexe sur le i de cloître.
Oui, ça je l'ai mis.
Très bien.
Il n'y avait plus rien, la nature du sol tapissée. I-L plus loin, N apostrophe, Y plus loin, A-V-A-I-T, plus rien. La nature du sol tapissée, vous l'accordez avec quelque chose ?
Non, et ?
Eh bien, très bien.
Très bien.
D'aiguilles de pin, les aiguilles...
Ils sont plusieurs.
En pluriel.
Oui, plusieurs des aiguilles.
Avec un S, pour faire former un tapis. A-I-G-U-I-2-L-E-S, de pin, P-I-N, à ne pas confondre avec le pain qu'on mange, P-A-I-N, ne se prétend plus à l'empreinte d'un corps prétend.
Ah, il y avait un S.
À prétend ?
Je ne l'ai pas mis.
Non.
Non, c'était plutôt...
Non, c'est le participe présent, toujours avec en.
Mais c'était plutôt l'accent circonflexe.
Ah oui, ça ah oui, l'ai mis.
Il y a l'accent circonflexe sur le oui. E de prétend. Ah oui. L'empreinte, ça c'est un mot qu'on peut parfois
confondre avec le verbe emprunter.
Ouais.
Non, j'ai mis E-M-P-R-E-I-N-T-E.
Parfait. Mais alors, comment le blessé aurait-il pu ? Pu, vous l'écrivez comment ?
P-U.
Très bien. Participe passé du verbe pouvoir, il n'y a pas d'accent.
Et aurait-il, il y a un tiret ?
Alors oui, là il y a un tiret. A-U-R-A-I-T, trait d'union I-L, plus loin, P-U. Là c'est le participe passé donc du verbe pouvoir. Échapper, E ou E-R ?
E-R, mais j'ai mis deux P.
Parfait. Et c'est donc l'infinitif du verbe échapper avec un accent aigu au début, hein, accent, E accent aigu, C-H-A de P-E-R, au regard de la jeune fille, au pluriel ou au singulier au regard ? Au
singulier.
C'est au pluriel.
Ah oui ?
Oui, ça fait deux fautes parce que c'est A-U-X.
Ah, ça coûte cher.
Et regard avec un S.
En fait, cette dictée, elle est simple, mais on a des petits pièges, des petites subtilités sur les accords. Et c'est vraiment, il faut se poser les questions en fait, avant d'écrire.
Combien de fautes à peu près ?
Ben, quand même, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Moi, je parle pas de faute. Hein.
Moi, oui.
Ce mot n'existe pas dans mon vocabulaire, cher Olivia.
Il y a 10 inexactitudes.
Exactement.
10 tentatives.
10 interrogations.
Oui. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu Sapin. Alors, je vois que vous avez noté en plus les corrections au orange. C'est pas tout à fait le rouge qu'on empruntait à l'école. Vous avez hésité, pourtant vous l'aviez dans votre palette. Et mais ça permet au moins de voir. Et vous n'avez pas triché, c'est-à-dire que vous n'avez pas changé, ajouté des lettres. Pourtant, c'est intéressant de regarder votre copie parce que vous avez une écriture d'ailleurs assez graphique en dehors du croquis de Rachid Santaki de son portrait que vous avez réalisé et qu'on aura en ligne puisque votre dictée va terminer sur notre. Il a été très sympa avec vous c'est également. Les yeux plongés dans le texte. Mais vous avez aussi une manière d'écrire très compacte, hein, où le texte est très serré. Est-ce que ce n'est pas justement une habitude, l'habitude de faire entrer le texte dans la page ?
Oui, quand on parle de bande dessinée, on pense beaucoup au dessin. Et en vérité, il y a aussi beaucoup de texte dans une BD, enfin souvent, sauf les BD muettes. Et c'est aussi un sacré boulot d'écrire le texte à la main. C'est un travail finalement qu'on fait plus beaucoup aujourd'hui, d'écrire à la main dans une écriture qui est destinée à être lue par d'autres. On écrit à la main pour soi-même. Alors qu'en bande dessinée, on écrit à la main pour être lu. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à avoir une écriture très lisible, très facile à suivre. Et...
D'où l'idée de la belle écriture, en tout cas. La belle écriture pouvant être totalement
Mais c'est particulier, parce qu'en plus, en bande dessinée, je sais pas si on peut dire que c'est une belle écriture, mais c'est une écriture, en tout cas, qui s'approche d'une forme un peu mécanique. Ça ressemble un peu à des caractères d'imprimerie.
Oui.
C'est pas une écriture cursive.
À quelle typographie ?
En fait, j'ai déposé, il y a une typo sapin. J'ai fait créer cette typo à partir de caractères que j'ai composés.
Finalement, le texte dans le dessin, il s'intègre aussi, il fait partie de l'environnement, en fait.
Voilà.
Il fait partie aussi du graphisme.
Voilà, et puis c'est souvent la première chose qu'on compose, d'ailleurs. Parce que le texte en bande dessinée vient avant le dessin.
Oui.
Et puis l'erreur que font souvent les gens qui font ça un peu en amateur, c'est qu'ils font d'abord, ils dessinent une bulle et après ils essayent de faire rentrer
la bulle, le texte, et du coup
ça ne marche pas trop.
Faut le concevoir en fait, c'est un mariage.
Et c'est très compliqué parce qu'il y a aussi des sens de lecture des bulles. Nous on a le sens de lecture occidentale, donc on lit de en haut à gauche vers en bas à droite. Et donc quand plusieurs personnages parlent dans une même case, il faut faire attention à la disposition des bulles, sinon on lit dans le désordre.
Et une bonne case, une bonne planche, il y a un équilibre particulier entre texte et dessin ?
Oui, oui, et puis de masse de noir et d'équilibre de mouvement. Mais c'est quelque chose qui se fait après de façon assez automatique, sans réfléchir. Hein. Disons que chaque page propose des problèmes différents, et donc à chaque fois, c'est comment je vais agencer, c'est comme un puzzle. En fait.
Oui.
Alors du coup, comment vous avez fait avec Johannes Farr, parce qu'il est assez bavard pour Ministère Secret, pour qu'il respecte sa part, qu'il laisse un peu de place pour le dessin.
Eh ben, on a fait toute une gymnastique. D'abord, il fait ce qu'on appelle un storyboard, c'est-à-dire qu'il fait un brouillon où il a écrit le texte et puis une esquisse des personnages. Et moi, à partir de là, je place le texte avec ma typo. Et ensuite, je le redessine à la table lumineuse, ce qui est complètement idiot, mais parce que je trouve que la typo, c'est trop froid. Parce qu'en plus... Moi, j'aime bien qu'il y ait une vibration, qu'on sente qu'il y a une main qui a écrit.
Voilà, ça, c'est l'équilibre que vous avez trouvé. En tout cas, la manière que vous avez eu ensemble de réaliser cet album, Le Ministère Secret, c'est le tome 1. Donc, on vous retrouvera pour un deuxième tome, si la promesse est tenue. Ici, c'était les héros de la République. Va savoir dans quelles aventures vous serez projetés. Cette fois-ci, c'était avec François Hollande et Nicolas Sarkozy, avec toute une aventure, une énigme aussi à résoudre dans ce premier tome. Merci beaucoup à vous, Mathieu Sapin, d'être venu et d'avoir accepté de vous prêter au jeu de cette dictée de Rachid Santaki. Je rappelle que l'intégralité de la correction est à retrouver sur la page d'En français dans le texte sur franceculture.fr. Il y a le chat d'ailleurs de Johannes Farr qui co-signe avec vous cet album Le Ministère Secret chez Dupuis. Il y a aussi un autre chat, pas le chat du rabbin, le chat de Philippe Geluck. Pour ceux qui passeraient par Paris, et comme il se passe quand même peu d'événements culturels à l'extérieur en ce moment, je voulais juste vous signaler que le dessinateur, auteur de bande dessinée aussi, Philippe Geluck, le Belge, est de passage à Paris avec ses chats en ce moment, qu'il a exposé sous forme de statue monumentale un peu partout sur les Champs-Élysées. Une exposition qui va voyager partout en France.
Ouais, ça a l'air impressionnant, hein. J'ai vu les images.
C'est des gros chats, des gros matous. Merci beaucoup à vous, Mathieu.